Bonjour Simon Buret.
Bonjour.
Simon Buret du groupe Aaron. On peut rappeler voilà. L'acronyme d'Aaron
Il a changé avec les années. C'est surtout l'acronyme du c'était le titre du premier album qui s'appelait Artificial Animals Riding on Neverland.
Et aujourd'hui?
Et ce qui signifie. Et aujourd'hui, c'est surtout un prénom dans lequel on met un peu les fantasmes et les peurs et les démons, la poésie qu'on a en fait, ce qu'on veut. L'idée d'être un prénom quand on est deux pour faire un groupe. Ça permet aussi de rajouter un peu d'étrangeté dans tout ça, de mettre du beau bizarre, quoi. Donc ça nous plaît bien.
Et votre dernier album s'intitule Anatomy of Light. Pourquoi ce titre?
C'était l'idée qu'on a tenté de chercher. À chaque album, on essaye de se réinventer pour rester vivant, pour rester dans une matière de découverte, quoi. Et puis, on s'est dit que ça nous intéressait de symboliquement faire une anatomie de la lumière. À savoir tout ce qui fait la lumière pour un artiste, mais même pour un humain à la base. C'est la première chose qu'on voit tous. C'est le premier vêtement de l'homme, c'est ce qui fait qu'on voit les formes. Puis il y a aussi cette première étincelle, jusqu'au grand feu du cœur, de l'esprit, de l'âme, du vivant, quoi. Voilà, donc en fait, on a fait une collection de chansons et on s'est dit que ça parlait de ça, des feux du corps et de l'esprit.
Et aux surprises, alors qu'on s'attendait à des chansons en anglais, comme c'était le cas pour vous au début, eh ben, finalement, c'est un album 50% français. 50% anglais. Pourquoi ce choix subitement?
Toujours dans une quête de nouveau à chaque fois. On a effleuré le français plusieurs fois, sur le premier album notamment. Et l'idée, c'est que au bout d'un moment, quand on a un groupe comme le nôtre qui dure et qui a un certain succès, ça peut être très enfermant aussi, le succès, malgré ce que peuvent penser les gens. Ça donne une forme une espèce de format aux choses. Et avec Olivier, très vite, on s'est interdit tout ça et on s'est dit que ce qui nous excitait, nous avant tout, c'était de sortir de notre zone de confort et d'aller chercher un peu ailleurs ce qui se passe. Pour un quatrième album comme ça, on maîtrise nos outils, on sait faire une chanson, entre guillemets. Mais du coup, c'est surtout le sujet qui importe. Et de se confronter, d'aller explorer comme ça le français, ça me permettait, moi, de réunir qui je suis, de père et mère. Entre l'anglais et le français, et aussi de se retrouver dans des choses nouvelles et d'avoir un œil nouveau. On avait, grâce à ça, l'idée, la sensation de faire un premier album, ce qui a été génial pour nous, quoi, parce qu'on voulait pas faire de la chanson française, on voulait que ça reste dans l'ADN de Aaron, que le français et l'anglais se mélangent et que la sensation reste là dans les deux langues, quoi.
Comment justement se prépare un album chez Aaron? 5 ans hein, pour sortir un nouvel album, parce que le précédent c'était We Cut the Night. Pourquoi un tel délai?
Alors c'était plutôt 4 ans à la base, mais avec le Covid, tout s'est décalé. Finalement, on l'a quand même sorti en 2020, mais fin 2019, il était prêt. Je dirais simplement que je pense qu'un artiste, que l'artiste, on n'a pas vraiment une notion de temps. On a des choses à dire ou on n'en a pas. Moi, j'ai toujours eu très peur de devoir créer. C'est pas un devoir, c'est avant tout une nécessité. C'est quelque chose d'intuitif qui vient à soi. Et puis, c'est important aussi de prendre la parole quand on a quelque chose à dire, de pas essayer de surfer sur un succès ou de tenir une place ou essayer de, comme j'entends souvent, rester dans l'actualité. Moi, j'y crois pas à tout ça. Je pense qu'on fait des choses et quand elles sont prêtes, on les présente. Après, souvent, une tournée, enfin, un album appelle une tournée. Chez nous, elle dure à peu près 2 ans. Donc, il y a tout un décalage aussi par rapport au moment où on fait les choses et où elles sont.
J'avais l'âme aiguisée, fendue par la lumière. Mes idées réfractées réfléchissent sur la pierre. Regardez se tourner sans bruit les pages dorées. Dans le galop du vent, réapprendre à marcher. Au panthéon du rêve, un costard sur mesure. Découpé dans la tôle des carcasses de voitures. Sous le vacarme des étoiles tout nu, tu m'as voulu. Comme la morsure du vent dans l'hiver revenu.
Avoir un message, c'est quoi votre message en 2020? Je vois notamment ce clip où on voit évoluer au milieu des voitures dans une décharge. Alors ça s'appelle Odyssée. Elle symbolise quoi, toutes ces bagnoles?
Chaque clip qu'on fait, on essaie de rajouter une couche de lecture. En l'occurrence, pour celui-ci, d'Odyssée, il y a une symbolique très forte qui entoure la voiture chez l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'homme au sens large, chez l'humain. C'est à la fois un symbole de puissance, de liberté absolue, de voyage, de vitesse. Et puis c'est aussi, par alliance, un des plus gros polluants de la planète aujourd'hui. Enfin, ça l'a toujours été, sauf qu'aujourd'hui, on s'en rend compte. Et du coup, de nous mettre en position comme ça dans ce clip, je trouvais ça très beau d'arriver dans... C'est une des plus grandes décharges de France dans lesquelles on a tourné. Et tout d'un coup, il y a quand même une poésie très forte de voir tous ces véhicules accidentés, toutes ces sorties de route, en fait. Toutes ces erreurs qu'on fait tous, sans aller dans la métaphore mièvre, mais sur l'autoroute de nos vies, quoi. Il y avait quand même ce symbole d'un coup de les voir remplis les unes au-dessus des autres, avec des voitures de luxe, des voitures plus petites, tout ça. Il y a tout un truc qui... C'est c'est vraiment un reflet de l'homme, quoi, cette machine. Et de les voir toutes ces sorties de route empilées, c'était très poétique pour nous. C'était assez lisible et littéral. Et d'un coup, si on se mettait au milieu de tout ça, on a fait appel à un groupe de gens qui font du tai chi et qui est par essence l'opposé du monde, c'est-à-dire prendre le temps de choses, décomposer le mouvement, avancer lentement. Et ça nous permettait de mettre deux choses en relation, comme une espèce de yin et yang de toutes nos personnalités, à tous, quoi.
Et à l'inverse, on vous voit évoluer dans un autre clip, cette fois-ci, ça s'appelle Les Rivières, et là, vous évoluez dans l'océan, vous marchez tous les deux dans l'océan, enchaîné avec une corde. Pourquoi ce morceau ?
J'avais l'envie de montrer, c'était encore un peu plus pour creuser le trait, pour pousser le trait, j'avais envie de montrer, j'ai toujours été fasciné, moi, par la para. J'aime bien m'habiller, j'aime bien tout ça, mais par la présentation des choses, quand on dit à un gamin qui, pour un entretien d'embauche, il faut qu'il mette une cravate, et voilà, le costume, ce que ça amène, ce que ça durcit sur nos épaules, d'accentuer par l'état du costume, par la forme d'un costume, les courbes de nos corps, par nous normaliser tous, nous formatiser tous. Et tout d'un coup, je me disais, si on s'habille comme ça, on est une espèce de ces deux mecs de la city, un peu, qu'on met donc. C'est peut-être le symbole, un des symboles les plus forts aussi de nos codes, à savoir le costume cravate, et de nous mettre dans un espace qui est le plus libre du monde et le plus mystérieux peut-être aujourd'hui, l'océan. Voilà, donc je voulais voir ce que ça donnait de mettre deux êtres perdus là-dedans. Et puis il y avait aussi cette corde qui nous reliait tous les deux et qui ramenait un autre symbole de l'amitié profonde qui fait qu'on l'un et l'autre se portent tout le temps, que sans l'autre on n'est rien. Si on regarde le clip jusqu'au bout, on voit qu'on marche sur une plage désertique. On l'a tourné pendant le confinement, donc c'était un des grands moments d'émotion pour nous, parce qu'on était dans des lieux qui sont d'habitude blindés, et là on était absolument seul, et on a rajouté cette statue de la liberté à la fin du clip, enfoncée dans le sable comme ça, en hommage direct à la planète des singes, où c'est vraiment la même planète qu'on est en train d'abandonner, et ce symbole de liberté là, que je trouve à la fois magnifique et terrifiant, quoi.
J'avais le goût du risque qui illumine, alors j'ai plongé dans le noir ta pupille, j'ai glissé comme glissent les rapides des rivières jusqu'au bras de la mer.
Dans vos albums et dans votre musique, il y a beaucoup, beaucoup de références au cinéma. On vous a connu en 2006 avec U-Turn Lily, qui était déjà la bande originale d'un film. Dans le précédent album, c'était John Malkovich qui faisait une apparition. Et là, aux surprises, Jean-Claude Van Damme. Pourquoi être allé chercher Jean-Claude Van Damme pour le titre qui s'appelle Ultra Rêve?
Ultra Rêve. Comme vous le dites, à chaque fois, on aime bien lier l'image et la musique. Je pense que les deux sont indissociables. À chaque album, on cherche une espèce d'ambassadeur comme ça, de matière qui fera qu'on va plus loin que l'objet commercial. Pour revenir à Jean-Claude Van Damme, c'est une personne qu'on connaissait, puisqu'il connaissait notre travail et on devait travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Le refrain d'Ultra Rêve, c'est « N'aie pas peur, il n'y a pas d'erreur ». Moi, c'était très important que les gens comprennent que c'était pas juste une phrase glissée comme ça, une espèce de truc catchy, un fourre-tout, quoi, un message fourre-tout, mais c'est au contraire, évidemment, qu'on est qu'une somme d'erreurs tous. Évidemment qu'on est tous poreux et tous foireux, et je suis toujours fasciné de voir de plus en plus comment on nous pousse à être parfait, comment les gens ont peur de l'imperfection physique, graphique, dans les mots, dans tout, enfin voilà. Pour moi, on n'est qu'une somme d'erreurs, et c'est tellement dur déjà de l'accepter. Seul, on est notre premier flic, quoi, devant le miroir. Donc, ce que je voulais dire, c'était « N'aie pas peur, il n'y a pas d'erreur ». Et que les gens entendent ce message. Et pour ce message-là, je me suis dit, qui aujourd'hui a ce statut d'icône sur la planète? Parce que c'est pas une star, c'est une icône, Jean-Claude Van Damme. Ça dépasse tout, c'est-à-dire que c'est des humains plus. C'est des gladiateurs du monde, quoi, de notre monde actuel. Et par ses muscles gigantesques, par ses prouesses, par sa fragilité extrême aussi, voilà, c'est quelqu'un en qui on se reconnaît. Et on s'est dit, si on prend Jean-Claude en chef d'orchestre comme ça, comme guide, pour dire ces mots-là, ça permettra aux gens de le suivre et d'entendre le message pour ce qu'il est.
Par l'avenir, n'aie pas peur.
Sylvain Tesson, explorateur, qui vous appuie également dans cette démarche, dans cet album, à travers un texte.
Oui, oui, il nous a décrit notre album. En fait, ça fait longtemps que j'aime beaucoup le travail de cet homme. Comme vous l'avez dit, cet écrivain, explorateur. Et en fait, la musique, c'est une matière vivante. Et souvent, avec Olivier, on imagine... Enfin, tout travail d'artiste, de toute façon, je pense que c'est un paysage avant tout. Et une chanson, pour nous, c'est vraiment un paysage dans lequel on plonge, on glisse, on nage, on vole. Enfin voilà, on se promène, on voyage avec ça. C'est des voyages immobiles, des chansons, avec les vallées, les rivières, les montagnes, voilà. Et on a proposé à Sylvain, par une lettre, parce que j'avais été vraiment touché par son écriture. Et je lui ai dit, voilà, t'étais explorateur, mais t'as encore jamais exploré une terre... immobile comme ça, une terre invisible. J'étais très curieux de savoir ce qui allait se passer comme lorsqu'un homme comme ça, qui est un des plus grands rapporteurs d'émotions de ces paysages où nous on n'ira jamais sur la planète, qu'est-ce que ça allait donner de lui faire ce voyage là quoi. Et donc il a pris son sac, ses pioches et ses affaires, il s'est assis dans son canapé et il a écouté nos chansons, il a parcouru ces paysages là et il nous a rapporté ce très beau texte qui était une introduction à notre album.
On parle beaucoup justement de protection de la planète dans votre œuvre. Vous êtes dans ce combat aujourd'hui, au quotidien, j'ose pas croire que c'est du greenwashing.
Ouais, bien sûr, c'est du greenwashing, on s'en fout complètement. Je pense que, enfin, à partir du moment où on est vivant, on peut pas se foutre de. Je sais pas, moi j'ai toujours. Conscience, ça veut pas dire que je fais pas plein d'erreurs, hein, mais qu'on fait partie d'un tout. J'ai toujours eu l'impression que l'homme considérait le monde comme un décor, un paysage et des accessoires, et les animaux notamment. On parle souvent de l'animal de compagnie, enfin voilà, il y a l'animal qu'on bouffe et celui qu'on caresse, tout ça, ça me perturbe beaucoup. Pour moi, c'est une évidence, on respire comme tout ce qui naît et meurt, même jusqu'à la plante, quoi. La plante naît, grandit et meurt, et l'animal aussi, l'homme aussi, et on fait partie de ce tout-là. Peut-être que si on en avait plus conscience, on saurait que si... Enfin, je peux pas aller plus simplement que dire s'il n'y a pas de planète, il n'y a pas d'homme. Avant toutes les causes de travail, de réussite, de succès, de tout ce qu'on veut, d'acceptation, de plein de choses, sans planète, il n'y a pas d'humain. Donc voilà, ça devrait être la base. J'ai souvent pensé qu'il y avait une sortie de route à un moment, mais que l'homme était, par ses capacités, par ses pouces opposables et par son grand cerveau, son intelligence, à la base, je nous ai toujours vus comme les gardiens de la planète, comme des espèces de jardiniers. On serait là pour entretenir tout ça, tous les autres qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Et puis on s'est trompé, je sais pas. Mais là, je crois qu'on se réveille un peu, j'ai l'impression.
Qu'est-ce que c'est pour Aaron, un album réussi? C'est quoi? C'est remplir des salles, comme par exemple ce lundi soir au Radiant? C'est vendre des albums? C'est quoi le symbole de la réussite?
Je sais pas, parce que je crois que le succès, c'est pas forcément... Enfin, évidemment que c'est grisant et c'est plaisant, et puis c'est aussi la preuve physique que les gens ont entendu le message. Donc c'est beau de voir la matière de vie qui est en face de nous dans une scène, sur une scène, quand on traverse un concert comme ça, une salle, une ville. Mais un album réussi, pour moi, c'est avant tout la chanson qui fait, le texte qui fait que ça fait vibrer une corde en moi, qu'il y a une émotion qui se déclenche. Pour moi, c'est ça avant tout, une œuvre réussie dans n'importe quel domaine, de littérature, de peinture, de film, c'est quand il y a une émotion que j'ai attrapée en tant que spectateur ou auditeur ou lecteur, quoi. Que ça m'a remué, que ça m'a bouleversé, que ça m'a décalé de mon quotidien. Ça c'est important. Quand j'écoute un album et que je sais que ça représente qui j'étais à ce moment-là, là, je crois que c'est réussi, pour moi.
Merci Simon Buret, on vous attend avec impatience du côté du Radiant à Caluire ce lundi. Il faut rappeler quand même que le public lyonnais vous connaît parce que vous êtes déjà venu à plusieurs reprises à Lyon.
Même, on est venu plein de fois à Lyon et c'est surtout symboliquement Lyon important parce que c'était la première date de toute ma vie avec Aaron. Donc à chaque fois que je passe dans cette ville, j'ai un souvenir ému et heureux de voir les gens, de retrouver les gens.
Merci Simon Buret, merci beaucoup.